Bonjour et bienvenue à cette édition du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Je suis Nanit Talani, heureuse de vous accompagner pour une plongée dans l'actualité africaine et internationale. Au menu, crise en RDC, la ministre des Affaires étrangères dénonce ce qu'elle qualifie d'inaction de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Des bombardements tuent 40 enfants au Soudan. L'UNICEF appelle à la protection des civils. Zelensky propose des négociations avec la Russie, mais le Kremlin qualifie ses propos de vide de sens. En magazine, nous reviendrons sur la reprise timide des activités socio-économiques à Goma en RDC après l'occupation du M23.
Depuis des jours, nous sommes en train de travailler, mais nous avons encore des difficultés pour avoir des clients qui sont encore rares.
Le Sénégal engage 1,6 milliard de dollars pour soutenir les PME. C'est un des sujets abordés dans la page Echo. Et puis en sport, Super Bowl 59, Kansas City Chiefs et Philadelphia Eagles prêts pour la grande finale. Mais d'abord, les nouvelles. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a dénoncé mercredi à Bruxelles l'inaction de la communauté internationale après l'offensive du M23 appuyée par des troupes rwandaises dans l'est de son pays. Les précisions de John Lindon.
Nous voyons beaucoup de déclarations, mais nous ne voyons pas d'action à déplorer devant la presse, la ministre congolaise, à l'issue d'une rencontre avec son homologue belge, Maxime Prévost. Kinshasa dénonce l'appui des troupes rwandaises à l'offensive du M23. Mercredi, le M23 et les troupes rwandaises ont lancé une nouvelle offensive, en dépit d'un cessez-le-feu annoncé la veille, s'emparant d'une cité minière dans la province du Sud Kivu et reprenant leur progression vers la capitale provinciale Bukavu. Cette crise est une menace pour la paix et la sécurité internationale quand plus de 4000 militaires rwandais s'arrogent le droit d'occuper illégalement un territoire souverain. C'est un conflit international, a encore dénoncé Kayikwamba Wagner. Elle dit que la communauté internationale devait prendre des sanctions et sévir contre le Rwanda, ce que la Belgique a demandé aux autres pays membres de l'Union européenne. Selon les Nations unies, les combats pour le contrôle de Goma ont fait au moins 2900 morts. La chef adjointe de la mission de l'ONU dans le pays précise que ce bilan pourrait encore augmenter.
Au moins 40 enfants ont été tués en 3 jours lors de bombardements dans plusieurs régions du Soudan, d'après l'UNICEF. L'organisation onusienne y voit une illustration saisissante des mesures qui pèsent sur les plus jeunes dans le pays en guerre. Alexandrine Holognan nous en dit plus.
La représentante de l'UNICEF au Soudan, Anne-Marie Soué, a fait référence dans un communiqué de frappes contre Kadougli, capitale du Kordofan Sud, qui ont tué 21 enfants et mutilé 29 autres, ainsi que d'informations faisant état d'au moins 11 enfants tués dans le bombardement d'un marché aux bestiaux à El Fasher, capitale du Darfour Nord, et de 8 autres enfants tués lors d'une frappe contre un marché proche de Khartoum samedi. Malheureusement, il est rare que plus de quelques jours passent sans que de nouvelles informations fassent état d'enfants tués ou blessés, a déploré Anne-Marie Soué. Les enfants du Soudan payent le prix ultime de combats incessants, a dénoncé la représentante de l'UNICEF, qui appelle une nouvelle fois les belligérants à respecter le droit humanitaire international, à protéger les enfants et à cesser les hostilités. Entre juin et décembre 2024, l'ONU a répertorié plus de 900 graves violations commises contre des enfants, principalement des enfants tués ou blessés, surtout au Darfour, à Khartoum et dans l'état d'Al Jazeera. Depuis avril 2023, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes.
Le parquet d'Abidjan a requis une peine de 20 ans de prison contre Damassa Picas, un cadre du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, pour son rôle présumé dans l'attaque d'une caserne en 2021 ayant visé le 2e bataillon d'Abobo. Elle avait fait 3 morts parmi les assaillants. Picas est accusé avec 4 autres personnes d'avoir participé à une tentative de renverser le régime d'Alassane Ouattara. Les accusés sont jugés pour des charges graves, dont atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. 10 soldats nigériens ont été tués dans une embuscade lundi dans la région de Silabéri, à l'ouest du Niger, près du Burkina Faso, a indiqué l'armée. L'attaque a eu lieu alors qu'une unité militaire était en mission pour retrouver des voleurs de bétail. L'embuscade, attribuée à un groupe de criminels, a également conduit à des frappes aériennes le lendemain, tuant 15 assaillants. Par ailleurs, le Niger a demandé au Comité international de la Croix-Rouge de quitter le pays avec effet immédiat, sans préciser de raison. Selon une source proche du dossier, le pouvoir de Niamey a dénoncé les accords avec le CICR et certains expatriés ont commencé à quitter le pays. Le bureau de la délégation à Niamey a fermé depuis mardi, a-t-elle ajouté. Le CICR était présent au Niger depuis 90. En soutien aux victimes des violences djihadistes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le Premier ministre François Bayrou a échappé hier mercredi à une motion de censure sur le budget qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, grâce à la neutralité des socialistes. Les détails avec Eric Manirakiza.
L'Assemblée a examiné et rejeté une première motion du parti de la gauche radicale de la France insoumise, appuyée par les communistes et les écologistes, contre la décision de François Bayrou de faire passer sans vote le projet de budget de l'État pour 2025 en engageant sa responsabilité. Ce budget est une étape d'urgence, a soutenu devant les députés le Premier ministre, qui a promis une réforme de l'État et des mesures d'ordre et d'autorité. Seuls 128 députés ont approuvé la motion de censure, alors qu'il aurait fallu 289 voix pour faire tomber le gouvernement. Les groupes du Parti socialiste et du Rassemblement national extrême droite avaient annoncé qu'ils ne censureraient pas au nom de la stabilité du pays. L'objectif pour l'exécutif est de ramener le déficit public à 5,4% du produit intérieur brut PIB, avec pour cela de nouvelles recettes grâce notamment à des contributions exceptionnelles des ménages les plus aisés et des grandes entreprises, mais aussi des coupes dans les dépenses de plusieurs ministères.
Le Kremlin a jugé mercredi vide de sens les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est dit prêt la veille à des négociations directes avec son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants pour mettre fin au conflit. Le point avec Dili Diko.
Près de 3 ans après le début de l'offensive russe en Ukraine, les appels à des pourparlers de paix se font de plus en plus pressants avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui dit vouloir mettre fin rapidement au conflit. Volodymyr Zelensky a longtemps été catégoriquement opposé à tout compromis avec la Russie, mais a revu certains points de sa position ces derniers mois face aux difficultés rencontrées par son armée sur le front. Interrogé sur la possibilité de négocier avec Vladimir Poutine dans un entretien diffusé mardi, Zelensky a assuré qu'il le ferait si c'est la seule configuration dans laquelle nous pouvons apporter la paix aux citoyens de l'Ukraine et ne plus perdre de gens. Il a évoqué un format avec 4 participants, a priori l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'UE. Le fait d'être prêt doit reposer sur quelque chose. Jusqu'à présent, cela ne peut être perçu que comme des paroles vides de sens, a dit mercredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a terminé sa tournée en Amérique centrale par une visite en République dominicaine où il a annoncé l'octroi de 40,7 millions de dollars pour soutenir la mission multinationale visant à aider la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs. Cette annonce survient après la demande des États-Unis à l'ONU de geler leur contribution à ce fonds. Rubio a également rencontré le président dominicain et visité le Guatemala, où le président Bernardo Arevalo a accepté d'augmenter le nombre de vols de migrants expulsés vers leur pays d'origine. Le président américain Donald Trump a signé un décret interdisant aux athlètes transgenres de participer au sport féminin. Ce décret, qui coupe les subventions fédérales aux écoles autorisant les élèves transgenres à rejoindre des équipes féminines, vise à mettre fin à ce qu'il appelle la guerre contre le sport féminin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre toute tentative de nettoyage ethnique à Gaza suite aux propos de Donald Trump qui a proposé de déplacer les Palestiniens vers la Jordanie ou l'Égypte, provoquant de vives protestations à l'échelle mondiale. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à réécouter sur voaafrique.com. Place maintenant à notre volet économique avec John Lindon.
Une mobilisation financière historique est en marche au Sénégal, selon l'agence Ecofin. Des acteurs clés de l'économie, dont l'agence de développement et d'encadrement des PME, se sont engagés à débloquer 1 milliards de francs CFA, soit environ 1,6 milliard de dollars. Cet argent devrait permettre de dynamiser les PME et PMI sénégalaises confrontées à un manque crucial de financement. La Banque africaine de l'énergie, une nouvelle institution panafricaine dédiée au financement des projets pétroliers et gaziers en Afrique, espère entamer ses activités d'ici mi-2025. C'est ce qu'a annoncé mardi le premier vice-président exécutif de la Banque africaine d'import-export après Simbank, Denis Denia. Selon l'agence Ecofin, la création de l'AEB avait été annoncée en mai 2022 par Afreximbank et l'Organisation des producteurs de pétrole africain. En juillet 2024, le Nigeria a été choisi pour accueillir le siège de la nouvelle institution qui disposera initialement d'un capital de 5 milliards de dollars. Les services postaux américains ont annoncé mercredi qu'ils continueraient à accepter des colis venant de Chine et de Hong Kong quelques heures après avoir dit le contraire en pleine guerre des droits de douane entre Washington et Pékin. La veille, l'USPS avait affirmé ne plus les accepter temporairement et jusqu'à nouvel ordre sans donner des raisons déclenchant l'ire des Pékin.
On enchaîne tout de suite avec le sport entre transfert et compétition à venir. Et nous recevons Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Parlons transfert pour commencer. Ismaël Benacer a rejoint l'Olympique de Marseille.
Le milieu de terrain international algérien s'est dit très pressé de porter le maillot de Marseille, un club où il avait toujours voulu passer. L'ancien milieu de terrain de l'AC Milan a aussi évoqué l'importance dans son choix de la présence à Marseille de Roberto De Zerbi. Champion d'Afrique avec l'Algérie en 2019, Ismaël Benacer a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme à Marseille où vit une très importante communauté algérienne et où il a retrouvé Amine Gouiri, son partenaire en sélection. Benacer a assuré qu'il arrivait à l'OM avec de l'ambition.
Et si je suis là, c'est pour des objectifs clairs. La mentalité, c'est d'essayer de gagner tous les matchs.
Nous restons ici aux États-Unis pour parler de cet événement très attendu ce dimanche.
Oui, il s'agit du Super Bowl, entendez la finale de la NFL, le championnat de football américain. Les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles se préparent pour cette 59e finale prévue à la Nouvelle-Orléans. Les deux formations ont fait face aux médias au Superdome où va se dérouler le match à la Nouvelle-Orléans, lançant ici le show médiatique. Michel Joseph.
Des pom-pom girls, des trompettistes, un public surexcité, comme si on était déjà le jour. Ce qui était à l'origine une journée des médias du Super Bowl est devenu ces dernières années un événement en soi. Plusieurs milliers de fans ont payé $20 pour des billets dans les tribunes du Superdome pour voir les joueurs faire face à des questions de journalistes. Jalen Hurts, joueur des Philadelphia Eagles.
Je pense que le message principal est d'aller sur le terrain, de se concentrer et de se battre jusqu'au bout.
La franchise de Philadelphie, une des victimes des Chiefs il y a 2 ans en Arizona, vise un deuxième titre. Les Kansas City Chiefs, eux, sont devenus la première dynastie de la NFL depuis le déclin des Patriots à l'époque de Tom Brady. Ils disputeront leur 4e finale en 5 saisons. Patrick Mahomes, joueur des Kansas City Chiefs.
Ça sera un défi extrême pour nous et nous devons être prêts à chaque instant.
Dimanche, Patrick Mahomes et les Chiefs vont tenter d'arracher un three-peat, un 3e titre consécutif sans précédent dans la NFL.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à réécouter sur voaafrique.com. Nanit Talani, toujours présente dans ce studio, je vous invite à découvrir les dossiers du jour. Quelques jours seulement après la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23, les activités socio-économiques reprennent dans cette ville touristique de l'est de la République démocratique du Congo. Les marchés et les magasins sont de nouveau opérationnels, même si les clients sont encore rares. Les hôpitaux sont également à pied d'œuvre pour prendre soin des patients atteints par des éclats de bombes et des balles. Les détails avec Zanem Netizaidi.
Au marché Maman Olive Lembe de Goma, les denrées fraîches à provenance de l'intérieur de la province du Nord Kivu et celles voisines du site Kivu affluent. Les activités ont repris après plusieurs jours d'arrêt en raison des affrontements intenses entre l'armée congolaise et le M23. Ces commerçants affirment que même si les activités semblent revenir à la normale, la peur est toujours palpable.
Le travail n'avance pas très bien, on a encore peur. Arriver au marché, c'est un sacrifice. Nous avons voulu quitter nos maisons pour venir au marché pour que nous ne puissions pas mourir de faim. La plupart des gens sont dans leurs maisons.
La circulation est à nouveau fluide. Les bus et les taxis des transports publics sont également opérationnels. Jean-Claude, qui accueille les clients dans un bus des transports publics, parle d'une reprise encore timide.
Bon, déjà 2 jours, oui, quand ça tourne la tunique.
Depuis 2 jours, nous sommes en train de travailler, mais nous avons encore des difficultés pour avoir des clients. Ils sont encore rares, vu la situation actuelle. Certains ont encore peur. C'est ça la situation dans laquelle nous travaillons.
Les hôpitaux de Goma ont également repris leurs activités, bien qu'il y ait toujours un besoin de personnel, car de nombreux médecins font partie des personnes qui ont fui. Presque tous les malades ont été touchés par des balles et des fragments de bombes. Certains hôpitaux se disent débordés.
La crise, vraiment, c'est grave. L'hôpital est débordé. Nous avons 25 interventions par jour. Hier, on a pris en charge 25 malades. Aujourd'hui, nous avons 29 malades.
Alors que la vie reprend petit à petit à Goma, les écoles, elles, sont toujours fermées. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM. Le bassin du lac Tchad est miné par une crise due au conflit de Boko Haram, aggravée par d'autres facteurs socio-économiques comme l'extrême pauvreté, le sous-développement, le changement climatique et d'autres conflits depuis une quinzaine d'années. L'État de Borno au Nigeria a accueilli le 5e forum des gouverneurs de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, axé sur les acquis en matière de sécurité, de coopération transfrontalière et de résilience économique. Gilbert Tomba était à Maïdougouri pour VOA Afrique. Voici son reportage.
Ils sont venus des 8 territoires du bassin du lac Tchad pour discuter à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, de l'avenir de la région confrontée aux défis sécuritaires de développement. Le renouvellement de l'engagement en faveur de la paix et de la stabilité, le renforcement de la coopération transfrontalière, l'autonomisation des communautés, en particulier les initiatives dirigées par les femmes et les jeunes, et la prévention de l'extrémisme violent et lutte contre le trafic de drogue sont les préoccupations majeures des populations de la région.
Le 5e forum des gouverneurs, justement, c'est pour la coopération transfrontalière. La principale raison pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour renforcer, pour encourager la coopération transfrontalière. Il y a aussi beaucoup d'autres moyens dont la CBLT a encouragé la coopération internationale.
Le bassin du lac Tchad traverse une crise due au conflit de Boko Haram, des menaces terroristes persistantes dans les zones transfrontalières.
Il y a toujours des soucis, parce que quand on voit, il y a des jours qu'on n'entend pas plus des attaques par le Boko Haram. Mais dans des mois qui sont passés, 2-3 mois, il y a eu reprise des attaques par Boko Haram. Donc, ça nous a montré qu'il y a toujours des soucis et les pays de sous-région, ils doivent s'attacher à travailler ensemble.
Le chef d'état-major de l'armée nigériane reconnaît ses défis sécuritaires et militaires, mais s'engage à poursuivre le combat.
Challenges will always come.
Les défis sont toujours présents, mais nous vaincrons. Les bonnes gens du Nord-Est ont fait preuve de résilience et malgré les années de défis et de difficultés, ils sont restés forts et déterminés ensemble. Nous réussirons.
Les participants au forum représentant des populations des zones affectées estiment que ce dialogue pourra produire des résultats attendus concernant surtout les décisions qui seront prises pour l'amélioration des conditions de vie dans la région du bassin de lac Tchad où quelques 6 millions de personnes, notamment des réfugiés, des déplacés internes en provenance du Cameroun, du Niger et du Nigeria, sont affectés.
Moi, mes attentes en participant à ce forum, c'était déjà de pouvoir voir comment est-ce que nos préoccupations sur le terrain, nous en tant que société civile, mais également en tant que femmes, vont être prises en compte dans ces stratégies révisées. Parce que pour la stratégie numéro une, nous en tant que société civile au Cameroun, particulièrement mon organisation, nous avons pris part à l'élaboration des plans d'action territoriaux, également à la mise en œuvre.
Le lac a perdu 90% de son volume en raison de sa surexploitation et du changement climatique. Les conflits entre éleveurs et fermiers se sont multipliés. Ce forum est ainsi un appel à transformer les défis en opportunités en favorisant la stabilité, la résilience et la prospérité dans le bassin du lac Tchad. Gilbert Tamba Ameidoukouri dans le nord-est du Nigeria pour VOA Afrique.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
En Gambie, des habitants de Bakau, ville située sur la côte atlantique du pays, à l'ouest de Banjul, la capitale, des jeunes se sont mobilisés pour participer au programme de migration temporaire en Espagne, lancé par les autorités espagnoles. Pour lutter contre l'immigration clandestine, cette initiative permet à des migrants de travailler temporairement en Espagne avec un contrat avant de rentrer chez eux. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Debout ou à même le sol, ces jeunes Gambiens de Bakau ont pris d'assaut les bureaux du ministère du Travail ce jour tôt le matin. Tous remplissent ces formulaires, espérant être choisis pour participer à un programme de migration temporaire en Espagne. Mbassé Diété, candidate à l'immigration vers l'Espagne.
Je veux aller travailler là-bas pour trouver de meilleures opportunités. Ici, nous dépendons tous de l'agriculture, mais nous ne disposons pas de suffisamment de produits pour subvenir à nos besoins. C'est pour ça que nous espérons tenter notre chance avec cette opportunité. Je peux y aller, travailler comme convenu, gagner un salaire et y rentrer chez moi à la fin du contrat.
Dans l'espoir d'atteindre l'Europe, de plus en plus de migrants, en majorité des jeunes, empruntent la dangereuse route maritime pour rejoindre les Canaries espagnoles depuis les côtes ouest-africaines. Lors d'une tournée en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal fin août 2024, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a promis de développer la migration circulaire. Ce programme permet à des migrants de travailler en Espagne avec un contrat pendant une période limitée pour répondre aux besoins d'un secteur précis avant de rentrer chez eux. Mohamed Kouli, candidat à l'immigration vers l'Espagne.
On nous a dit que le travail serait lié à l'agriculture, ce qui n'est pas un problème pour moi car je suis déjà agriculteur. En ce moment, j'ai mon propre jardin où je fais pousser des oignons et du riz pendant la saison des pluies. L'agriculture est mon gagne-pain. Je suis donc très enthousiaste à l'idée d'avoir cette opportunité.
En 2024, près de 47 000 personnes ont tenté de rejoindre l'Europe en prenant la mer depuis les côtes ouest africaines jusqu'aux Canaries espagnoles, selon l'agence Frontex. Plus de 10 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024, selon l'ONG Caminando Fronteras. À la question de savoir si ces potentiels migrants temporaires reviendront dans leur pays, d'aucuns sont catégoriques. Aladjin Djié, candidat à l'immigration vers l'Espagne.
Par la grâce d'Allah, lorsque nous irons là-bas, nous tiendrons notre promesse. Il y a tellement de points qui mentionnent si on peut travailler, si on peut faire des heures supplémentaires. Quand on ira là-bas, on fera de notre mieux pour leur donner satisfaction.
En attendant, il faudra d'abord passer l'étape de la sélection. Et ce n'est pas toujours simple. À Bakau, la distribution des formulaires avait dû être suspendue lundi, quand des candidats à l'immigration ont escaladé l'enceinte de la cour du bâtiment et que des bagarres ont éclaté. Une scène similaire avait eu lieu mardi dernier à Dakar au Sénégal. Pour éviter les bousculades, l'État sénégalais a instauré le dépôt des dossiers en ligne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Mali, la 10e édition du festival Ogobania vient de s'achever à Bamako, la capitale. Avec ses danses, ses masques impressionnants et ses lutteurs traditionnels, le festival a rendu un vibrant hommage à la culture Dogon du centre du pays. Cette région, autrefois très touristique, a été rendue difficile d'accès depuis des années par la crise sécuritaire. Claire Mouret-Gibourg nous en dit plus.
Pendant une semaine, la culture Dogon a été transportée en pleine capitale Bamako avec la reconstitution d'un village traditionnel sur les berges du majestueux fleuve Niger. Placé sous le thème « Tradition africaine et modernité », la 10e édition du festival a été un franc succès selon son organisateur Pierre Adeyé Togo. Le moment phare de chaque édition reste le défilé des masques tutélaires du pays Dogon.
La cérémonie de danse des masques est un élément important pour l'histoire, pour la communion des Dogons, puisque c'est une cérémonie qui permet aux âmes de nos patriarches défunts d'intégrer le monde des ancêtres qui est supposé être le monde du paradis.
Cette année, en plus des activités traditionnelles, de nouvelles épreuves comme la lutte traditionnelle, les courses de pirogue et un espace dédié aux enfants ont été créés. Mais ce sont les danses qui ont été préférées par le public.
J'en ai eu la chair de poule. C'est une danse qui raconte notre histoire, celle des Dogons, notre passé depuis l'enfance. Cela m'a permis de me ressourcer.
Le chef de la transition, le général Assimi Goïta, a proclamé 2025 comme année de la culture. Et avec la participation d'artistes venus du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de la Guinée, le festival Ogobana 2025 a pris une dimension sous-régionale.
Dans tous ces pays, si on occupe les jeunes, ils ne seront pas des terroristes.
VOA Afrique vous propose une émission spéciale explorant les enjeux sécuritaires du Sahel, notamment l'instabilité politique.
Le système sénégalais a survécu à quel coup? Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Et s'il n'y avait pas eu ce petit déclic de dernière minute, où serait le Sénégal aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le reste de l'Afrique?
Et le rôle des acteurs internationaux?
On pense toujours que c'est l'étranger. Mais en nous-mêmes, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à travailler ensemble?
Les crises humanitaires, les défis de la gouvernance.
Nous devons nous lever, prendre cela avec nos propres forces. Et quand les autres vont voir, ils vont venir nous appuyer.
Des conflits persistants à l'accès aux soins. Nos invités analysent les dynamiques affectant le bien-être des populations sahéliennes et proposent des pistes de solutions possibles.
C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir accompagnés. Je suis Nanit Talani. Pour la réalisation, j'ai bénéficié de l'assistance de Firmé Max Kouyaouida et de celle de Kelvin Fowler à la technique. Restez connectés à VOA Afrique pour suivre les évolutions de l'actualité tout au long de la journée. Pour plus de détails et des mises à jour en temps réel, rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À bientôt.